Morgan. Hardigan présente Assassin's Creed Renaissance de Oliver Bowden, traduit de l'anglais par Claire Joanneau, lu par Arnaud Le Ridan. Je pensais que j'apprenais à vivre. J'apprenais seulement à mourir. Léonard de Vinci. Chapitre 1er. L'éclat des torches brasillait au sommet des tours du Palazzo Vecchio et du Bargello, mais, un peu plus au nord, seules quelques lanternes éclairaient chichement la place de la cathédrale. D'autres illuminaient les berges de l'Arno, où, en cette heure tardive, dans une cité où la plupart des habitants se terraient chez eux sitôt la nuit tombée, l'on voyait dans la pénombre errer marins et dockers. Les premiers, encore affairés auprès de leur embarcation, s'empressaient d'achever de réparer le gréement, de ranger les cordages ou de récurer le pont, tandis que les seconds se hâtaient de traîner ou de porter les cargaisons à l'abri des entrepôts tout proches. On voyait aussi de la lumière dans les tavernes et les bordels, mais les rues étaient presque vides. Cela faisait 5 années que Lorenzo de' Medici, alors âgé de 20 ans, avait été élu à la tête de la ville. Il avait apporté un semblant d'ordre et de calme dans les rivalités intenses qui déchiraient les grosses familles de marchands et de banquiers, grâce auxquelles Florence était devenue l'une des cités les plus prospères du monde connu. Et pourtant, la ville n'avait cessé de bouillonner, jusqu'à déborder parfois, au gré des luttes de chaque faction pour s'approprier le pouvoir, des retournements d'alliances, engendrant parfois des inimitiés implacables et définitives. En ces temps de grâce 1476, même en une soirée de printemps embaumant le jasmin, au point de vous faire presque oublier l'odeur fétide de l'Arno pourvu que le vent souffle dans la bonne direction, Florence n'était pas l'endroit idéal pour flâner à découvert, surtout à la nuit tombée. Dominant un semis d'étoiles, la lune s'était levée dans un ciel bleu cobalt, illuminant la place dégagée où le Ponte Vecchio, encombré de ses nombreuses échoppes toutes closes et silencieuses en cette heure, rejoignait la berge nord du fleuve. Elle éclairait aussi une silhouette vêtue de noir, qui se dressait sur le toit de l'église Santo Stefano al Ponte, celle d'un jeune homme, 17 ans à peine, mais de belle carrure et de port altier. Il contemplait d'un regard vif le paysage à ses pieds. Soudain, il porta une main à ses lèvres et siffla, un long sifflement pénétrant. Peu après ce signal, 1, puis 3, puis 10, et bientôt pas moins de 20 hommes, aussi jeunes que lui, la plupart également vêtus de noir et coiffés tantôt d'un chapeau, tantôt d'un capuchon bleu, vert ou rouge sang, mais tous portant une dague ou une rapière à la ceinture, émergèrent qui des rues sombres, qui de sous les arcades de la place. D'une démarche pleine de mâle assurance, la petite bande de jeunes à l'aspect menaçant vint bientôt se déployer à ses pieds. Le jeune homme toisa leur visage attentif, tendu vers lui, pâle au clair de lune. Il leva alors le poing au-dessus de sa tête en un geste de défi.
« Restons unis !»
s'écria-t-il, tandis qu'ils imitaient son geste. Certains avaient brandi leurs armes et tous reprirent en chœur.
« Unis !»
Agile comme un chat, le jeune homme descendit du toit par la façade du portique encore en travaux avant de sauter, faisant voler sa cape, pour atterrir accroupi au milieu de leur petite troupe. Ils firent cercle autour de lui, dans l'expectative.
« Silence, mes amis !»
D'un geste de la main, il fit taire leurs murmures, puis, avec un sourire résolu, poursuivit.
« Savez-vous pourquoi je vous ai convoqué ce soir, vous mes plus fidèles alliés ? Pour vous demander votre aide. »